La vie est une suite constante d'expériences. Plus on en fait, mieux c'est. Nous sommes Selma et Soazic de Séraphin.légal. Avec Parole de juriste, nous vous proposons de décortiquer pour vous les parcours de juristes d'entreprises inspirants. Ils vous partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif, vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète. On se retrouve, Nathalie.
On se retrouve.
Pour une deuxième partie d'enregistrement, c'est chouette, dans les locaux de Séraphin. Merci de m'accorder encore du temps.
Avec plaisir.
Je disais à Nathalie, vous l'écouterez sur la fin du dernier épisode, que c'était dommage en fait, de s'arrêter là et de passer très vite sur le reste des questions parce que tu as énormément de choses à raconter et des choses hyper intéressantes. Donc je suis hyper contente qu'on se retrouve. Et on s'était arrêté justement au moment où tu parlais de sortir de sa zone de confort, de ton arrivée chez Fnac Darty et de ce conseil. En tout cas, cette remarque que tu avais faite, Alexandre Bompard, qui te disait que justement chez Fnac Darty, chez Fnac, on recrutait en tout cas des personnes qui aimaient sortir de leur zone de confort et qui aimaient être challengées, qui étaient curieux, qui sont curieux. Tu nous parlais de cette direction juridique qu'il fallait fusionner, cette fameuse réunification à la Koh-Lanta, puis aussi des objectifs court terme avec un plan de départ volontaire. Des équipes qui n'étaient pas dans les mêmes locaux, notamment certaines, enfin en tout cas l'équipe d'Arty qui était à Bondy, du fait de remplacer deux directeurs juridiques, il y avait une question de survie à ce moment-là, plein de sollicitations. Je ne pouvais pas nécessairement dérouler une roadmap toute prête sur 100 jours, comme tu nous disais. Qu'est-ce qui a fait, à quel moment plutôt tu as pu prendre un peu de recul et t'occuper de sujets un peu plus long terme?
Comme tu disais, en fait, on passe vraiment en mode survie parce qu'il faut à la fois délivrer au quotidien, il faut préparer l'avenir et en même temps, il faut tenir compte de là où sont les gens que tu dois manager. Et moi, j'ai pris du recul. En fait, j'ai été forcée de prendre du recul parce qu'en fait, je suis partie vraiment bille en tête, moi, sur tout ce que je pensais, sur la vision de la direction juridique de demain que j'allais appliquer à ma direction juridique que je posais de manière assez théorique avec tous les sujets qu'il fallait qu'on travaille. Et j'ai réuni les équipes pour leur expliquer, faire mon rapport d'étonnement et leur expliquer comment je projetais la direction juridique et tous les items sur lesquels il fallait travailler, à la fois en termes d'outils, en termes de politique contractuelle, en termes de veille, donc j'ai vraiment tout déroulé. Et là, j'ai vraiment pris conscience que je faisais fausse route en regardant mon équipe. Parce qu'ils m'ont regardé, en fait, je pense qu'ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ?
Tu vas dans la mauvaise direction.
Non mais ouais. Même pas ça. Je pense que pour eux, en fait, je parlais de science-fiction parce que c'était un moment qui était quand même assez difficile avec une entreprise qui était vraiment en fusion, des plans de synergie qui étaient en cours, des équipes qui fusionnaient à certains endroits, pas forcément à d'autres, des changements de périmètre pour certains collaborateurs, voire des changements du coup d'organisation au global, avec des process qui à certains endroits étaient fusionnés, d'autres non. Les collaborateurs devaient déjà se déployer sur du Fnac plus du Darty, dans une roadmap unifiée. Donc changer en plus les outils, les process de la direction juridique, en plus de ceux des opérationnels, j'ai pris conscience qu'en fait, j'en attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop et qu'une roadmap, ça se pense de manière progressive et que le travail consistait à définir, OK, quelles sont les étapes pour aller là où on a envie d'aller? Il va falloir être patient, il va falloir finalement avoir vraiment un plan d'action sur plusieurs années, parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir tout faire en parallèle, parce que les équipes, en fait, je vais les perdre, ouais. Et puis je vais les cramer.
Et donc, c'était quoi? C'était un moment de réunion où tu étais en face de ton équipe et tu as vu la surprise, ou en tout cas l'incompréhension dans leurs yeux? Ou est-ce qu'ils ont osé te le dire?
Non. Alors, je pense qu'effectivement, j'ai tellement d'énergie et d'enthousiasme que parfois, je pense que c'est pas forcément évident de se dire je vais être un briseur de rêve. et donc, non. Alors, après, j'ai quand même pas mal d'empathie. Donc, en fait, je l'ai compris. Et je me suis dit, en fait, ça va pas être possible parce que quand on a finalement deux équipes, avant de projeter l'équipe vers l'avenir, il faut déjà harmoniser les process, il faut déjà les amener à la même maturité parce qu'une équipe peut être plus mature sur certains process et l'autre sur d'autres process. Donc, il faut finalement homogénéiser, les faire converger déjà vers ce qu'est être juriste aujourd'hui avant de les projeter vers ce qu'est être juriste demain. Voilà, c'est un vrai travail qui doit se faire par étapes. C'est juriste aujourd'hui de manière homogène, mm-hmm. partager une même vision et ensuite pouvoir travailler sur l'avenir.
Ça a l'air titanesque, ne serait-ce que d'y penser. Je me dis, mais il y a tellement de sujets, tellement de choses à faire. Ça vous a pris combien de temps ?
Alors, le Covid nous a pas aidés,
hein. Oui.
Parce que forcément, hein, l'année 2020 a été une année extrêmement compliquée, puisque nous, on a été quand même très très impactés. Il a fallu qu'on revoie nos priorités, puisqu'on avait forcément tous, hein, dans toutes les entreprises d'ailleurs et toutes les directions juridiques, voilà, d'autres sujets, d'autres enjeux, d'autres priorités pour accompagner nos entreprises. On a déroulé, je dirais. Alors, c'est vrai que le Covid fausse vraiment les choses. Je pense que c'est plutôt sur 3 ans, si je regarde au global, l'ensemble des sujets pour pouvoir dérouler, je dirais, tout ce qui est le plus structurant.
Ok, ok.
Après, c'est un éternel recommencement parce oui. qu'il faut être en veille constante, notre métier évolue en permanence, il se passe des choses tous les ans, c'est pour ça que c'est très important aussi, hein, des podcasts comme le tien, c'est pour ça aussi que c'est très important, et on en parlera du coup, l'investissement au sein de la FGE, le fait de rencontrer des gens, parce qu'on va prendre et on va se nourrir aussi de ce que font les autres, hein, parce qu'on va avoir, nous, un certain prisme, donc on va travailler sur ce qui nous paraît le plus urgent, le plus évident pour pouvoir améliorer l'efficacité, pour pouvoir centrer la direction juridique sur sa valeur ajoutée, mais il se passe aussi des choses ailleurs, et donc il faut être à l'écoute. Et en fait, et ça, alors c'est aussi ce qui est passionnant, c'est que c'est en perpétuelle reconstruction.
Ouais, exactement. Et j'allais te dire, mais effectivement, j'allais te poser la question de savoir qu'est-ce qu'on prend. Est-ce qu'on prend donc le meilleur de chez Fnac, le meilleur de chez Darty, mais en fait, on peut aussi faire table rase de tout et se dire il y a peut-être une meilleure organisation.
Alors, faire table rase de tout, c'est pas possible. Enfin, ou alors, il faudrait avoir une armée et des budgets énormes pour se dire, ok. Et puis, il faut pas oublier qu'il faut délivrer, parce que l'activité continue. Donc, il faut que ça continue à tourner. Donc, non, on fait pas table rase de tout. Il faut justement comprendre les modes de fonctionnement, essayer de comprendre ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Et surtout, nous, ce qu'on a fait, c'est on a vraiment impliqué nos parties prenantes internes. On a beaucoup fonctionné par workshop avec nos opérationnels, parce que l'idée était d'amener le changement, mais d'amener un changement concerté. Et pouvoir être efficace, moi, alors je dis souvent à mes équipes, hein, j'ai beaucoup de mantras, je dis toujours le mieux est l'ennemi du bien.
Oui.
Et le fait d'avoir une vision de ce que voudrait la direction juridique, si c'est à contre-courant de ce que veulent vos clients internes, ok, c'est très très beau sur le papier, dans la réalité, en fait, il va y avoir un, de la résistance au changement, et deux, ça ne va pas être mis en œuvre.
Et ça ne servira à rien, finalement.
Exactement. Donc le but, c'est forcément de faire adhérer tous les gens qui contribuent au process, hein, que ce soit la direction des achats, l'audit interne qui va contrôler a posteriori, la direction financière. Donc il faut vraiment avoir une vision 360 des enjeux pour pouvoir déterminer les solutions. Et ce ne sera pas forcément la solution à laquelle vous aurez pensé au début. Vous pouvez avoir une intuition, une envie, le fait de dire « j'aimerais bien faire ça ». Vous allez consulter toutes vos parties prenantes et vous allez vous dire, ok, la question c'est, est-ce que je veux mettre de l'énergie sur le fait de forcer mes parties prenantes à adhérer à ce que je veux, ou est-ce que je veux plutôt finalement me dire, ok, la règle est 80-20, hein, c'est, je préfère finalement avancer et pouvoir contribuer vers quelque chose qui sera de toute façon mieux qu'aujourd'hui, et puis je verrai du coup après pour aller plus loin. Donc c'est plutôt effectivement ça qui est un espèce de, finalement, de fine-tuning un petit peu subtil qu'il faut faire entre une vision et un principe de réalité qui fait que, au final, ce qu'il faut, c'est avancer.
Très clair. Et donc tu prends des personnes au sein de ton équipe et tu les assignes à un rôle en plus de chef de projet sur certaines missions en particulier, c'est ça?
Alors, pour certaines missions, la dimension gestion de projet est très chronophage, donc pour le coup, là, il vaut mieux être accompagné quand même par des externes, consultants externes spécialisés. Donc moi, j'avais déjà beaucoup travaillé avec Dewan aussi, hein, Olivier Chaduteau, et puis voilà, mon ancienne collaboratrice Riz Nouri, donc qui est chez Dewan depuis quelques années maintenant. Donc déjà quand j'étais chez TF1, et donc voilà, donc ils m'ont aussi accompagné sur les grands projets qui nécessitaient quand même un investissement en termes de gestion de projet qui au-delà des fonctions des juristes, était disproportionnée et permettait aussi, hein, dans la dynamique de brainstorming avec les opérationnels, avec tous les clients internes, d'apporter aussi finalement du benchmark de ce qui se fait aussi à l'extérieur. C'est une espèce quand même un peu de caution gens qui ont déjà travaillé sur ces problématiques pour d'autres entreprises. Donc ça apporte aussi de la réassurance sur ce qu'on est en train de faire. On n'est pas juste en train de faire un truc qui n'a pas de sens. C'est une démarche qui finalement, entre guillemets, market practice. Et donc ça, je trouve ça pas mal.
D'être épaulé, et puis avec, j'imagine, Cerise qui avait déjà une bonne connaissance de la direction juridique de TF1 forcément avec toi et de ta manière de travailler. Ouais. Donc très pratique aussi pour savoir dans quelle direction tu voulais aller pour y aller très rapidement avec toi, j'imagine.
Je pense que ça, c'est très important, effectivement, d'avancer avec des personnes qui ont un peu une même vision et avec qui tu vas vraiment avoir finalement un échange très, très direct. Parce que tout ça doit avoir une dimension très pratico-pratique. C'est pas quelque chose d'hors sol, c'est quelque chose qui doit vivre dans la vraie vie. Et c'est vraiment très important parce que voilà, si c'est trop théorique, de toute façon, ça prendra pas. Alors je pense que les boîtes ont plein de belles missions, de conseils, super intelligentes, super construites, qui restent dans les placards et qui ne voient pas le jour et qui finalement, dans la réalité, s'éloignent petit à petit de ce qui avait été prévu au démarrage. Donc ce qui est vraiment important, c'est d'avoir cette dimension pratico-pratique et je trouve ça effectivement beaucoup plus facile quand on a, quand on a des habitudes de travail et qu'on a finalement cette connaissance, parce qu'ensuite on va capitaliser d'un projet à un autre aussi sur ce qu'on a mis en place. Ça permet d'avoir une cohérence dans tout ce qu'on met en place, parce que finalement il y a une espèce de fil conducteur dans le mindset, dans la philosophie de ce qu'on est en train de faire.
Et donc ça te prend, pour revenir à la question initiale, donc ça te prend 3 ans, c'est ça ?
Alors c'est compliqué en fait de ramener le temps à ça, parce que finalement il y a aussi ce qui se passe en parallèle. La première année, donc, il y a eu beaucoup de sujets d'organisation, parce que les organisations, d'une manière générale, de l'entreprise changeaient beaucoup. Et on a eu un gros sujet la première année qu'il a fallu qu'on traite, donc c'est pas très glamour, mais de papier.
D'accord, ok.
De papier, souvent ça fait un peu rigoler quand je dis ça, parce que ça paraît... Voilà, à côté d'Arty, j'avais à peu près 33 ans d'en archivage.
D'accord.
Qu'il fallait du coup traiter, et côté FNAC, moins, mais quand même un certain volume aussi. Ça veut dire qu'il faut trier, scanner, détruire, quand c'est des documents dont on se dit que ils sont pas non plus à jeter comme ça, parce qu'il peut y avoir des choses confidentielles ou pas, mais c'est un peu compliqué quand on remonte sur 33 ans de papier. Donc ça c'est un alors je m'y attendais pas.
Voilà, j'allais dire, est-ce que tu savais, est-ce que tu t'attendais à avoir ces 33 ans de papier avant de signer ton contrat?
Non, j'avoue, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, j'ai rigolé, mais j'ai dit, mais c'est un cauchemar. Non, après, c'est une expérience, hein, je veux dire, parce qu'il faut mettre en place une méthodologie, parce que malheureusement, on ne peut pas consacrer son temps à ça. Donc ça veut dire, mais ça nous a pris pour arriver au bout, en plus, du day-to-day business et de ce qu'on lançait par ailleurs. Mais on a fermé le dossier archivage papier au bout d'un an.
Oui, j'imagine. Et donc tu t'en avais marre du papier, j'imagine que tu as eu ta dose de papier.
Je pense que tous mes collaborateurs en avaient marre. Mais ils ont été super, ils ont joué le jeu, parce que c'est vrai que c'est painful, et ils ont tous joué le jeu. Donc franchement, j'ai vraiment eu de la chance, moi, d'avoir une équipe vraiment super. Ils ont vraiment adhéré au projet, ils ont vraiment donné beaucoup d'eux-mêmes, et tout ça n'a été possible que parce que ils se sont laissés embarquer, y compris sur les aspects les moins séduisants de la roadmap, mais qui étaient nécessaires.
Et est-ce qu'ils avaient pas peur, c'est peut-être pas le bon terme, mais déjà il y a une fusion entre deux boîtes, c'est déjà quand même quelque chose de super important, avec des peurs qui peuvent émerger d'un côté comme de l'autre. Il y a aussi cette notion de on perd nos points de repère, qui sont nos deux directeurs juridiques ou directrices juridiques qui étaient là avant, et puis toi tu arrives, peut-être qu'ils ne te connaissent pas, en tout cas ils n'ont jamais travaillé avec toi, ils se sentent comment à ce moment-là?
C'est ce que je disais, en fait, l'erreur que j'ai commise, alors après que j'ai rectifié assez rapidement, hein, heureusement que j'ai voilà, en tout cas qui m'ont montré qu'il y avait une incompréhension. Moi, j'arrivais de l'extérieur, donc finalement, j'étais assez détachée par rapport à cette fusion, puisque voilà, j'étais ni Fnac ni Darty, j'avais pas vécu le rachat. Donc, quand on est de l'intérieur, je pense, hein, quand on est dans un contexte de fusion, c'est vrai que y a forcément une longue phase d'attente avant que ça arrive, parce qu'il y a une notification concurrence, donc c'est long. Il y a de l'inconnu. Moi, ils ont su que j'arrivais. Je crois à peu près une semaine ou quelque chose comme ça avant que j'arrive.
D'accord.
Donc c'était quand même quelque chose d'un petit peu forcément brutal. Mm-hmm. Et je suis arrivée, il fallait il y avait donc forcément le livre 2 là, du PDV qu'il fallait boucler après mon arrivée. Et très rapidement, il a fallu donc que je pose l'organisation. Donc forcément fusionner des équipes, donc c'est déjà quelque chose de différent. J'avais un style de management qui est pas du tout le même que les deux personnes que je remplaçais, donc ce qui est normal.
Que tu as rencontré ?
Que j'ai rencontré, j'ai passé du coup un petit peu moins d'un mois d'overlap avec, okay, avant qu'il s'en aille, ce qui m'a permis, c'est pas mal, hein, de faire des interviews, d'avoir un petit peu leur feedback, et en même temps, il faut aussi se détacher de la vision qu'ils peuvent avoir, parce que l'intérêt de venir de l'extérieur, c'est aussi de venir sans idée préconçue. Quand on disait la réunification, hein, les rouges et les jaunes, c'est bien aussi d'arriver finalement de l'extérieur, et de pas être ni rouge ni jaune, et d'essayer d'arriver avec un point de vue très objectif, sans se dire y a quelque chose qui est mieux que l'autre, parce que forcément, hein, chacun pense que sa manière de faire et c'est normal et c'est humain, puisque les gens font comme ils font parce qu'ils ont le sentiment que c'est comme ça qu'il faut faire. Et quand on fusionne des équipes, c'est ça qui est compliqué, c'est d'arriver et de se dire il faut à la fois être efficace, donc on peut pas non plus réinventer une troisième manière de faire tout de suite, ce que tu disais tout à l'heure, de faire table rase. Il faut quand même essayer de capitaliser sur ce qui est fait, parce que pour les collaborateurs, mais là je parle au-delà de la direction juridique, hein, dans le cas d'une fusion, ce qui est compliqué, c'est de se dire qu'on va dénigrer une manière de faire pour dire mais c'est n'importe quoi comment vous faites, c'est comme ça qu'il faut faire, nous on fait bien. Et ça c'est toujours le danger, parce qu'il faut aussi embarquer les gens dans une histoire commune, et embarquer les gens dans une histoire commune, c'est pas retenir l'une des deux histoires pour l'écrire ensemble, parce qu'il faut que les collaborateurs se sentent les collaborateurs de cette histoire commune. Donc c'est ça le plus risqué, et pour les collaborateurs, je pense que c'est ça l'inquiétude finalement, c'est qu'on ne retienne qu'une histoire par rapport à l'autre.
Et ça n'est pas arrivé, en tout cas, de par ton action et de par le travail que vous avez mené avec toute ton équipe. Tu parlais pendant la première partie de l'épisode, tu as évoqué Alexandre Bompard et les conseils, justement, cette conversation que tu avais eue avec lui. J'imagine que tu as eu pas mal d'échanges et d'entretiens avec, dans tes autres expériences avec des grands dirigeants. Comment on gère un entretien avec un dirigeant comme Alexandre Bompard ?
Alors, j'ai toujours eu de la chance, finalement, d'avoir accès à des gens qui m'ont mis à l'aise. Donc, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un entretien avec quelqu'un qui m'ait mis mal à l'aise. Moi, j'aime beaucoup l'échange et je suis toujours... j'ai toujours tombé, finalement, sur des gens qui étaient dans l'échange... le dialogue, donc j'ai pas eu ce ressenti.
Et c'est hyper important, parce qu'effectivement sinon t'aurais pu te retrouver dans une situation de peut-être, je sais pas, de stress ou d'inconfort, non peut-être pas, parce que tu maîtrises ton sujet.
Peut-être, après c'est toujours un peu compliqué de savoir comment on réagirait. Après, j'avais pas non plus quand j'ai été contactée pour le poste chez Fnac Darty, j'avais pas non plus d'enjeux personnels très forts, dans le sens où au début j'y croyais pas, en fait. Moi personnellement, ce qu'on dit sur le truc, j'aurais pas postulé parce que je me serais dit bon. Je me serais pas reconnue dans le poste en disant j'ai pas fait de distribution, j'ai pas fait de consommation, j'ai pas fait d'immobilier, j'ai pas travaillé dans le retail. Donc c'est un peu la question, c'est combien de pourcentage des compétences du poste il faut avoir pour postuler. C'est un grand débat entre les hommes et les femmes.
Exactement.
Mais moi j'avoue être vraiment, avoir ce syndrome là je pense que je me serais dit que j'avais pas les compétences pour postuler. Donc je pensais, j'ai suivi le process parce que je me suis dit c'est intéressant, c'est une acquisition d'expérience aussi, mais j'avais pas cette urgence là que quelqu'un va avoir en disant vraiment c'est ce poste c'est moi, je le veux absolument. Donc j'étais plutôt assez détendue par rapport à l'enjeu, ce qui je pense aide beaucoup aussi à se sentir, faut être conscient, à se sentir à l'aise, c'est quand il y a moins d'enjeux. Je suis persuadée que quelqu'un qui a un enjeu énorme sur un poste, ça va être probablement plus compliqué parce que forcément, tu as une tension qui est très forte.
Tu n'avais rien à perdre et puis tu y allais parce que pourquoi pas, hein, ça peut être quand même intéressant au bout d'un moment et ça a marché. On devrait évoquer une partie super intéressante sur Fnac Darty quand même. C'est aujourd'hui acheter un produit à la Fnac, chez Fnac, plutôt que chez un distributeur étranger qu'on ne citera pas ou d'autres distributeurs étrangers qu'on ne citera pas. C'est devenu un acte quasi militant. On va aller à la Fnac. Mais en même temps, aller à la Fnac pour acheter un livre plutôt que d'aller en librairie, c'est aussi un peu compliqué. Et puis, il y a tout un sujet autour de la Fnac et de la concurrence déloyale vis-à-vis des librairies. Et j'imagine que c'est un sujet que vous travaillez beaucoup, notamment avec Sophie, qui travaille sur ces sujets de concurrence, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et je me souviens de la période, notamment du confinement d'octobre 2020, où Bercy a finalement tranché en faveur des librairies indépendantes et a demandé la fermeture de tous les rayons livres de tous les distributeurs, pas que Fnac d'ailleurs. Comment tu interviens en tant que directrice juridique avec notamment Sophie sur ces sujets, sur des sujets de concurrence déloyale, sur ces sujets-là, comment intervient la direction juridique ?
Alors, finalement, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas notre quotidien. C'était vraiment un moment très particulier, justement, cette question des livres pendant le deuxième confinement. Et nous, on était pour le fait que les livres puissent être considérés comme un produit essentiel, donc y compris pour les libraires. Donc c'était plutôt ça l'enjeu.
D'accord.
Voilà. Donc c'est l'enjeu en fait qu'il y a eu, c'était ça. Donc on était du côté des libraires. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça a été tranché. Mais nous, ce qu'on aurait souhaité, parce que, et d'ailleurs c'était, je pense que tous les intellectuels hein, se sont exprimés et tout le monde était plutôt pour que ce soit considéré comme un produit essentiel. Après, honnêtement, c'est vrai que le débat était très compliqué. Voilà, c'était une situation exceptionnelle et je pense qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse sur ces questions, sur ces questions-là. Tous les pays ne l'ont pas traité de la même manière. La situation était pourtant la même dans tous les pays, hein, et la réponse apportée n'a pas été la même dans tous les pays, ce qui montre bien qu'il n'y avait pas une bonne ou une mauvaise réponse. Après, je pense que collectivement, tout le monde a essayé d'être le plus pragmatique possible. D'ailleurs, c'est ce qui avait été dit, hein, c'est qu'il fallait être pragmatique. Et donc voilà. Mais clairement, nous considérons qu'effectivement, le livre est un produit qui est essentiel à la vie de tout le monde. On est sur l'accès à la culture, à l'éducation, et donc il n'y a pas d'opposition entre nous et les libraires sur ces sujets-là. On a la même vision et la même conviction sur le sujet.
Très clair, on est totalement alignés. Le livre est un produit de première nécessité, on est d'accord. Mais comment ça se fait, j'insiste, hein, mais comment ça se passe? Est-ce que tu as le directeur des affaires publiques ou la directrice des affaires publiques de Fnac Darty qui t'appelle ou un DG qui te dit voilà, on doit se retrouver à Bercy dans 2 heures. Est-ce que tu peux nous préparer-nous des éléments sur des sujets de concurrence? C'est quoi les coulisses de ce genre de réunion?
Là, on n'est pas sur un sujet de, on n'est pas sur un sujet de concurrence parce que là, on était vraiment sur une appréciation d'un texte et une décision plus finalement un acte plus politique que concurrence. C'était parce que il n'y avait pas de honnêtement, les textes étaient assez compliqués finalement à lire. Et bon, sans rentrer dans le détail, c'est vrai qu'il y avait différentes manières de lire différentes choses, hein, et notamment par rapport au premier confinement. Donc on est plus là sur quelque chose qui est une dimension pragmatique et potentiellement une position politique sur le sujet. On n'est pas sur un sujet de concurrence. Après, on est dans la prise de décision pragmatique et politique sur une question de traitement équitable. Et c'était ça aussi le sujet, hein, parce que ce qui a généré la question, c'était aussi le fait que les livres étaient vendus au sein des GSA. Donc la question était de dire, bah, soit tout le monde peut le faire, soit finalement personne ne peut le faire. Mais il y avait une nécessité de prendre une position et d'avoir une position sur le sujet. Donc voilà, c'est vrai que cette polémique a permis d'avoir une position. Après, la position, voilà, c'est la position. Il n'y a pas d'appréciation, est-ce que c'est bien, pas bien. C'était nécessaire d'en avoir une, et il y en a eu une. Voilà, donc c'est...
Et très important de dire que Fnac était pour la réouverture des librairies également, et que justement, c'est le jeu de la concurrence entre un libraire et un distributeur. Quand on est salarié et collaborateur Fnac Darty, est-ce qu'on achète ses livres en librairie ou pas?
Bah oui, oui, bien sûr. Et comme tu le disais, hein, c'est aujourd'hui très important de favoriser le commerce d'acteurs français. Mm-hmm. C'est un peu aussi tous les enjeux, hein, face à cette globalisation, cette mondialisation. Donc on a quand même de gros enjeux à pouvoir avoir une compétitivité, hein, nos acteurs français. Donc après Fnac ou librairie indépendante, hein, je pense que de toute façon il y a une offre qui est suffisante pour trouver son bonheur. Hein. Et il y a des libraires spécialisés qui permettent aussi potentiellement d'avoir des ouvrages, notamment des BD ou des mangas. Ouais. Il y a des choses qui sont vraiment très très spécifiques. Donc oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un sentiment finalement d'appartenance, de fierté et puis d'envie justement de militer. Et je pense qu'on en prend encore plus conscience quand on est à l'intérieur parce qu'on mesure l'enjeu qu'il y a à le faire et le risque sur le moyen long terme à ne pas le faire.
Et on devrait justement acheter ces livres et ces bouquins à la fois chez Fnac Darty, en librairie indépendante, chez les deux. Chez Fnac, pardon, pas chez Darty, parce que Darty ne vend pas de livres, non. Jusqu'à preuve du contraire, je dis n'importe quoi. Ça fait une vingtaine d'années que tu travailles, Nathalie ?
Oula, j'ai commencé à travailler en 97.
En 97, ouais. Et donc au fil des années de Monceau Assurance à M6, à TF1, jusqu'à Fnac Darty, t'as gravi les échelons à chacune de tes expériences. Je pense que tu dois être super fière et puis ton entourage autour de toi doit être très fier. Bravo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir de ton point de vue actuel, qu'est-ce qui fait d'un juriste ou d'une juriste un bon prétendant au poste de directeur juridique ou directrice juridique ?
Alors, je pense pas qu'il y ait de recettes, et pour le coup, moi, je pense pas qu'il y ait de plan de carrière. En tout cas, moi, j'en ai jamais eu. Ce qui drive, je pense, un bon juriste, c'est la passion. Parce que on est bon quand on prend du plaisir. Enfin, moi, c'est ma conviction. On est bon quand on prend du plaisir à ce qu'on fait. Et je pense que moi, c'est ce qui m'a toujours guidée, c'est le fait de garder cet enthousiasme, le fait d'être aligné avec soi-même. Et de prendre vraiment du plaisir à ce qu'on fait. Et j'ai vraiment la conviction qu'à partir du moment où on a cet enthousiasme, on a cette passion, on a cette envie, on aime ce qu'on fait, bah finalement, la frontière entre est-ce qu'on le fait pour le salaire qu'on a à la fin du mois, ou est-ce qu'on le fait vraiment parce que ça prend une autre dimension dans notre vie, et la frontière entre vie pro, vie perso devient plus ténue, parce que finalement, on n'hésite pas à travailler certains sujets sur son temps libre. Hein. Moi, je l'ai beaucoup fait, notamment quand on a un engagement bénévole, ou quand il y a un sujet qui t'intéresse, quand il y a des événements en after work.
Aujourd'hui,
et c'est quelque chose qui devient finalement une espèce d'engagement personnel qui va finalement te conduire beaucoup plus loin que là où tu irais si tu étais vraiment bon, bah, métro boulot dodo, j'ai ça à faire, et ce que je fais en fait finalement ça s'arrête à un instant. On peut toujours creuser un sujet, on peut toujours en faire plus. C'est très personnel le fait d'avoir envie de le faire. Moi, ça m'a toujours motivée et j'y prends beaucoup de plaisir personnel. Donc, alors c'est ma vision, hein. Probablement que d'autres directeurs juridiques auront d'autres visions et auront d'autres parcours. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de recette. Ça dépend vraiment de ta personnalité, de ta manière de voir ton métier, de la boîte dans laquelle tu fonctionnes, parce qu'il y a des boîtes qui ont des attentes différentes de leurs directeurs juridiques les unes par rapport aux autres. Hein. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de règle, et ce n'est pas une fin en soi. Hein. Il y a des collaborateurs, des gens, des juristes qui ne seront pas directeurs juridiques et qui vont s'éclater et qui vont vraiment se s'épanouir dans leur job. Donc ce qui compte, c'est la rencontre entre une personne et un job, mais c'est une rencontre mutuelle.
Tu disais, il n'y a pas de chemin tout tracé. En tout cas, le teint, ton fil rouge, ça a été la passion, et c'est toujours la passion. J'avoue qu'on a un peu triché avec Nathalie, parce qu'on a eu une superbe conversation à la suite du premier enregistrement, où on a parlé essentiellement de ça, de cette passion, du fait de travailler, et de ne pas faire nécessairement de distinction entre les deux. C'est-à-dire, mon épanouissement personnel justement me permet d'être tout aussi épanouie au travail et vice versa. On ne travaille pas non uniquement pour gagner une source de revenus, un salaire qu'on pourra finalement dépenser le week-end ou le soir, mais en tout cas l'un va avec l'autre, et c'était vraiment chouette comme conversation. Je serais incapable de la résumer. Je suis rentrée chez moi, tu sais, j'ai pris des notes, parce que je fais ça à chaque fois que j'ai des superbes rencontres. Je prends des petites notes, et c'est un chouette échange, et merci de m'avoir accordé ce temps de pouvoir parler de ce sujet là c'était chouette, et je suis désolée de pas avoir pu enregistrer ces échanges, parce que c'était vraiment fun. Je voulais évoquer un autre sujet avec toi, plutôt sur la partie culture juridique au sein de l'entreprise, au sein de l'entreprise de manière générale, et pas qu'au sein de la direction juridique. Chez Séraphin, il y a quelques jours, on a eu le plaisir, quelques semaines d'ailleurs, d'accompagner la direction juridique de Laura Merlin sur le prix de l'innovation en management juridique. Encore une fois, on s'est éclaté avec Claire Cacan, Adélaïde Taquet, Amel Rachid, qui justement se sont lancés dans une campagne pour gagner ce prix. Et on était hyper conquérantes et ambitieuses. On voulait à la fois le prix du jury et le prix du public. On a eu la mention spéciale du jury. Très bien, pourquoi pas, on était hyper contentes. Et elles se sont lancées dans ce projet de manière assez intéressante, c'est-à-dire qu'elles ont attendu deux ans sur un outil qu'on a co-designé avec elles. Elles ont attendu deux ans, le temps d'avoir des retours sur investissement, pour ensuite pouvoir les matérialiser, les mettre en avant, et aller justement à la conquête de ce prix, mais aussi à la conquête d'une nouvelle image auprès de leurs clients internes. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait de savoir avec toi, ce serait plutôt de savoir comment on fait justement pour instaurer une culture juridique forte au sein de son entreprise. Typiquement, on a eu le cas de Leroy Merlin sur cette opération qui est quand même assez ponctuelle, mais ils ont d'autres méthodes pour le faire. Ils sont accompagnés notamment par des équipes performance au sein de la DG. Mais comment on diffuse la culture juridique? Comment on diffuse son image de marque en tant que direction juridique?
C'est un projet qui est forcément global, parce que c'est pas une action isolée une fois qui va faire du coup une culture. Donc ça veut dire que c'est vraiment un tout. Il faut marketer la démarche, il faut positionner la direction juridique dans les bonnes instances, là où les messages vont pouvoir être diffusés. Il faut répéter les messages, parce que il faut pas oublier qu'il y a du turnover dans les équipes. Donc on n'est pas sur un socle apprenant où on ne fait que progresser. C'est aussi des équipes qui bougent, comme on disait, donc du turnover, ce qui fait que vous recommencez aussi à zéro. Donc c'est un éternel recommencement. Il faut beaucoup d'énergie, je pense, parce que ça veut dire qu'il faut être très proactif. Il faut avoir une direction juridique qui partage déjà la même culture. Donc ça, c'est vraiment un premier travail, parce que ce sont les collaborateurs qui vont être les ambassadeurs de cette culture et qui vont diffuser les messages à chaque fois, au bon moment, aux bonnes équipes, et qui vont du coup les répéter. Mmh. Donc c'est vraiment une question de persévérance. Oui. Et de cohérence de manière au quotidien et aussi dans le temps. Et donc c'est pour ça qu'en fait il faut vraiment avoir une vision très claire des principaux sujets sur lesquels vous allez avoir besoin de diffuser de la culture juridique, parce que toutes les boîtes sont différentes, n'ont pas les mêmes enjeux, n'ont pas les mêmes organisations, et donc la culture juridique, c'est pas quelque chose qui est sur étagère où on vous dit ah ben voilà, la culture juridique qu'il faut mettre en place, c'est ça. C'est pas une science exacte. Ça veut dire que c'est un vrai travail de diagnostic, c'est un vrai travail de compréhension, d'échange avec les parties prenantes internes, parce que ça se décrète pas, une culture juridique, ça se construit et ça se diffuse et ça s'entretient.
Et c'est pas que du droit pour faire du droit, c'est vraiment...
Non, parce que de toute façon, et on voit bien que le métier de juriste a énormément changé, c'est fini les notes qu'on faisait il y a 20 ans avec des footnotes, avec la décision de la Cour de Cases, avec des mots très juridiques. Aujourd'hui, on sait bien que pour diffuser une culture juridique, et même pour diffuser des process, il faut parler le même langage que les clients internes, puisque c'est à eux qu'on s'adresse. Donc il faut toujours se poser la question question de quelle est ma cible, et quel est mon objectif. Mon objectif n'est pas qu'ils deviennent juristes. Mon objectif est qu'ils comprennent un enjeu, qu'ils comprennent un process. Et donc, on a affaire à des personnes qui n'ont pas eu de bagage juridique. Donc, on ne peut pas leur délivrer un message, parce que le but, c'est qu'ils comprennent le pourquoi. Donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Donc, ça prend du temps. C'est quelque chose qui se construit et qui prend du temps à se construire.
Et vous avez des équipes au sein de Flying Dirty hyper compétentes et très brillantes au sein des équipes marketing, communication. Je connais quelques personnes, en tout cas notamment des camarades de promo qui travaillent d'ailleurs au sein de l'entreprise. Mais est-ce que du coup, ça t'arrive de t'appuyer sur ces équipes-là ou en tout cas quelques personnes pour demander conseil? Parce que finalement, évidemment, tu peux avoir accès à des conseils externes sur ce sujet-là, mais est-ce que finalement ces personnes sont formées au marketing et à la communication et au fait de délivrer un message au bon moment avec justement les bonnes personnes? Est-ce que tu t'appuies justement de ces équipes-là?
Chez les opérationnels?
Oui. La question était très longue,
non,
c'est vrai.
Non, pas forcément sur ça. Par contre, oui, des conseils sur la manière de faire. Oui, parce que c'est justement en fait... L'important, c'est de ne pas avoir une vision juridique, parce que sinon, en fait, on va être très auto-centré et on va finalement réfléchir à ce qu'on veut dire, pas en fonction de la cible, mais en fonction de ce que nous, on a envie de dire. Et comme je dis, le mieux est l'ennemi du bien. Ce qu'il faut, c'est que le message passe. Et on ne s'adresse pas à nous-mêmes. Alors, ce serait génial si on s'adressait à nous-mêmes, parce que du coup, on comprendrait super vite. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, oui, il faut identifier dans l'entreprise des relais de confiance qui vont vous parler vrai et auprès de qui vous allez pouvoir tester vos idées, tester les messages, pour regarder si finalement ils pensent qu'ils ont compris et est-ce que c'est les bons messages. Donc ça, c'est très important. Et oui, moi, j'ai des relais de confiance. Et d'ailleurs, quand je mène un projet, à chaque fois, j'ai mis en place un comité de pilotage dans lequel j'ai justement ces relais de confiance qui ne sont pas des gens de la direction juridique et qui vont avoir une approche différente et qui vont pouvoir critiquer du coup ce qu'on fait.
Génial.
Et ça, c'est très important parce que ça permet de ne pas être auto-centré et de ne pas s'enfermer dans des certitudes, parce qu'on en a tous, des certitudes, des intuitions, on a envie d'aller vite et on a des biais. Et donc, ce qui est très important, c'est justement de casser ces biais et ces certitudes avec des personnes qui ne sont pas de la direction juridique, qui vont dire, OK, c'est super, mais enfin, là, c'est trop long, là, c'est pas clair, là, ça, c'est pas intéressant, là, qu'est-ce que tu veux dire? Et qui, finalement, vont venir un peu tailler votre communication ou le contenu, et ça fait du bien parce que c'est un parler vrai, et le souci, c'est d'être constructif et d'arriver à de l'efficacité. Donc ces relais de confiance là sur le fond, bien sûr il en faut.
Très bon conseil. Ok, génial, effectivement. Et puis, qu'est-ce que c'est agréable. Enfin, ça peut parfois être désagréable de se faire challenger par certaines personnes, mais c'est tellement pratique et ça nous permet d'avoir un résultat qui est tellement plus finalisé, tellement plus adapté rapport à ce qu'on veut faire.
Enfin, c'est essentiel. Il vaut mieux se faire critiquer au démarrage, parce que ça permet d'intégrer les remarques. À partir du moment où la démarche elle est constructive, ça permet de les intégrer ab initio, plutôt que d'aboutir à un résultat qui finalement n'aura pas l'impact recherché. Donc, de toute façon, c'est un vecteur d'efficacité.
Totalement d'accord avec toi, Nathalie, comme pour tout le reste de l'interview. Dans un super portrait vidéo de la FGE, qui a été réalisé notamment avec les équipes chroniques qu'on salue, tu disais on a une matière juridique qu'on façonne avec sa propre personnalité et son propre style. C'est quoi le style, Nathalie Dubois?
Ce qu'on disait tout à l'heure quand tu me demandais pour être directeur juridique, je pense qu'on a tous une personnalité et c'est ce qui fait toute la richesse des gens dans l'entreprise. Moi, je dirais le peut-être un côté hyperactif. parce qu'effectivement je suis toujours un peu à 200%. Donc je pense que c'est probablement ce qui me viendrait à l'idée, et puis enthousiaste et passionné. Ça c'est j'ai toujours, alors c'est pour ça que j'ai besoin aussi moi d'avoir des gens et ces fameux relais de confiance pour me canaliser, parce que j'ai toujours envie de faire des tonnes de choses et j'ai toujours beaucoup d'idées d'avance.
Et c'est très bien.
Donc j'ai appris par contre la patience avec les années et l'expérience. Voilà, j'ai appris aussi ce qu'on disait tout à l'heure, à se dire que bah voilà, il faut des étapes, il faut capitaliser sur ce qu'on fait avant de passer à autre chose. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire parce que j'ai un style quand même très 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 pushy et très dynamique. Et donc je me soigne. Et je me soigne beaucoup aussi en essayant d'avoir des gens autour de moi qui vont un petit peu aider à canaliser cette énergie parfois un peu débordante.
Et il en faut, et puis c'est ça, c'est une bonne balance finalement entre, on a toujours des personnes qui sont très 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 hyperactives et qui ont beaucoup d'idées, qui fusent 36 000 idées à la minute, et d'autres personnes qui sont là justement pour prendre le meilleur de ces idées et puis les prioriser et puis les mettre en œuvre avec toi, donc c'est top. Et si je posais cette question justement à Sophie, Elodie, Noémie, Fabien, j'en oublie plein, mais qu'est-ce qui me répondrait? Est-ce qu'il me répondrait la même chose?
Je pense, ouais. Oui, hein, parce que quand même, c'est vrai que, et j'en suis consciente, hein, quand on est dans une équipe, probablement que parfois, les gens voudraient un peu se poser pour pouvoir se dire ok, bon, voilà, on fait un peu un arrêt sur image, on gère. Et c'est vrai que quand on, voilà, on enchaîne, voilà, on a bossé sur ça, donc du coup, il y a hop, ça qui arrive. C'est vrai que je peux concevoir que. Voilà, une pause parfois serait la bienvenue. Et moi, alors des fois c'est ce que des fois je rigole, hein, je dis j'aimerais bien des fois qu'il y ait un bouton on off dans ma tête. je sais pas mettre sur off. Mais je me le dis des fois, je me fatigue moi-même.
Est-ce que tu t'ennuierais pas en étant sur off, justement?
De toute façon, je pense que je me suis fait une raison.
Ouais, voilà, c'est comme ça.
Passé 50 ans, je me suis dit, voilà, c'est comme ça, c'est mon mode de fonctionnement. Je fais avec, donc...
On salue ta fille et ton époux qui doivent être à fond aussi avec toi derrière. Un de tes engagements, c'est la libération de la parole des juristes. T'en parles souvent. Et nous, par exemple, sur Parole de juriste, c'est vraiment notre motto. On dit souvent que les entrepreneurs, glorieux, successful, et les marketeurs hyper innovants et puis les commerciaux qui sont les plus redoutables n'ont pas du tout le monopole du podcast et du contenu inspirant. T'en es la preuve, tu fais partie justement de tous ces invités qui nous l'ont prouvé. Et justement, enfin, Nathalie, comment on fait et qu'est-ce qu'on doit continuer à faire pour libérer la parole des juristes et pour l'imposer au COMEX et en comité stratégique?
Je pense que ça part déjà, on parlait tout à l'heure de culture, hein, ça part déjà du juriste lui-même. Mmh. Il faut que les juristes prennent plus la parole d'une manière générale, hein, mais c'est pas que le directeur juridique, parce que, comme on disait tout à l'heure, la culture juridique, c'est une équipe qui va la déployer. On peut pas avoir une culture juridique tout seul. Il faut que l'ensemble des collaborateurs de la direction juridique partagent la manière de faire, partagent la méthode, partagent finalement une certaine culture, parce que c'est ça qui va donner un impact. C'est si toute la direction juridique avance de manière groupée, dans une même direction, avec un même mindset, c'est ça qui va faire qu'il va y avoir une culture juridique.
C'est une mêlée.
C'est une mêlée. Donc on peut pas décréter tout seul, c'est pas parce qu'on dit bah tiens, moi je suis directeur juridique, je vais aller au COMEX, je vais dire ça. La réalité, c'est que le COMEX, ils ont des équipes et ces équipes vont être au contact de vos collaborateurs. Donc, en fait, en termes d'impact, on ne peut pas l'aborder, je trouve, comme ça. Ça veut dire qu'il faut, vraiment avoir cette homogénéité dans la manière de fonctionner. Donc, la parole du juriste, c'est la parole de tous les juristes.
Et je tiens à préciser quelque chose, c'est très vrai ce que tu dis, hyper sincère, pas du tout bullshit, parce que on a échangé à plusieurs reprises avec Sophie avant, après son enregistrement, il y a quelques jours, on organisait un afterwork Parole de juriste. C'est quelque chose sur lequel elle revient très souvent. Nathalie nous pousse à prendre la parole. Et elle en parle très souvent. Et donc, je voulais juste le préciser parce que parfois, on peut avoir l'impression que on est sur un poste à responsabilité. Donc, on a une vision, mais c'est pas nécessairement la réalité. Mais en tout cas, là, en l'occurrence, c'est vraiment la réalité.
Mais je tiens à le dire. Il faut poser des questions. Ce que je dis, c'est que vous êtes légitime. Les juristes sont légitimes pour poser des questions. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Et c'est normal de pas tout savoir. Donc, il faut poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions à côté de la plaque. Et c'est comme ça qu'on avance. Mm-hmm. Donc moi, j'ai toujours mes milliards de questions pour les opérationnels, et pourquoi et comment. Des fois, j'ai l'impression d'être un enfant de 4 ans. Mais je trouve que ça fait partie de la démarche de comprendre, parce qu'on est bien meilleur. On fait pas du droit pour faire du droit, on fait du droit pour résoudre des problèmes qui sont opérationnels. Et donc ça veut dire qu'il faut faire du deep dive pour comprendre. C'est ça. Quand on dit business partner, ça a un sens. Dans business partner, il y a business. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre. Donc il faut poser des questions et il faut pas hésiter à aller questionner, parce qu'il faut faire le candide. Je trouve que c'est très bien de faire le. C'est pas que l'avocat du diable, c'est le candide, parce que ça va aussi. Les opérationnels vont pas forcément toujours penser à vous dire parce que ça leur paraîtra pas important. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette parole très libérée et décomplexée.
Ne pas avoir peur de paraître candide.
Ne pas avoir peur de paraître candide. Moi, des fois, je pose, et à la rigueur, il faut dire, bon, et souvent, je suis désolée, peut-être que je vais poser une question bête, mais je ne comprends pas pourquoi. Et si vous ne comprenez toujours pas la réponse, je dis, je suis désolée, je n'ai toujours pas compris. Et je dis, s'il n'y a pas de honte à ne pas avoir compris, moi, il y a des fois, je dis, enfin, voilà, je suis désolée, je comprends pas. Enfin, et c'est ça, souvent, c'est un peu le syndrome du bon élève, de pas oser finalement dire je comprends pas ou c'est pas clair. Donc cette parole-là, je pense que ça commence déjà par ça, parce que avant d'aller donner faire des recommandations, il faut déjà libérer la parole déjà sur le questionnement qui fait vraiment partie intégrante de notre métier. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, essentiel. Et alors, on n'apprend pas forcément ça à l'université ni à l'école, parce que c'est vrai que on n'est pas dans une culture de l'éducation où finalement il y a ce dialogue entre l'élève et le professeur, un petit peu sur un même pied d'égalité quelque part. Donc c'est pas quelque chose qui est culturel chez nous. Et par contre, il faut en tant que juriste vraiment cultiver cette espèce de paroles un peu décomplexées sur le fait de se dire, bah voilà, je sors du droit pour aller vers les gens, vers les opérationnels, vers le marketing, voilà, vers la finance. Et du coup, c'est normal de ne pas tout comprendre.
On parlait de la prise de parole en public la dernière fois en sortant du studio. Je pense qu'on partageait le même constat. On disait, mais en fait, il y a des personnes qui s'expriment très très bien et qui interviennent dans des conférences. On parlait de la cité de la réussite, il me semble. Et je disais que j'avais assisté à des conférences justement organisées par un BCG, que j'étais hyper impressionnée par ces prises de parole en public, mais que j'étais quand même assez consciente que la plupart de ces personnes, et tant mieux, s'étaient formées à la prise de parole en public. Et aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas certaines personnes ont l'impression, sont un peu complexées par ça, en se disant c'est un don, c'est inné en fait, ces personnes se sont toujours exprimées de cette manière, et donc jamais je ne pourrais y arriver. Est-ce que tu pousses tes équipes justement à aller sur ce type de coaching, je sais pas, ou de formation, et en démystifiant tout ça, en leur disant mais il faut aussi se former à ce genre de choses, c'est pas que du talent?
Je pense que c'est effectivement le niveau 2. Parce que le fait de d'aller dans des événements, alors moi je l'ai jamais fait, être formée à la prise de parole en public.
Et pourtant je le fais très bien.
mais c'est une question finalement de récurrence. Mm-hmm. C'est le fait déjà de le faire dans son quotidien, dans lequel son travail. Et ça c'est déjà un bon entraînement en fait, mm-hmm. parce qu'on peut déjà s'entraîner soi-même à le faire.
Bien sûr.
J'ai une réunion, j'ai une plénière, il y a une conférence, j'ai des questions. Déjà s'entraîner à poser des questions dans des instances où il y a du public, c'est un super exercice. Mm-hmm. Parce que les gens ne font pas forcément, ils ne posent pas de questions.
Tu veux dire qu'il faut évidemment préparer ces questions en amont éventuellement, et puis préparer à les poser
Pour commencer, il faut les préparer en avance, c'est de se dire, quitte à se dire pendant toute la conférence, pendant toute la plénière, se dire... Au début, c'est un exercice, c'est de se dire quelle question je vais poser et chercher la question. C'est-à-dire, il faut que j'en pose une. Je pense que c'est déjà le premier entraînement. Après, c'est une question de courbe d'apprentissage. Au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus facile. Au début, c'est difficile, mm-hmm. parce que je ne sais pas pourquoi, les gens n'osent pas poser une question.
Parce qu'ils ont peur.
Voilà.
De buter sur un mot.
Mais ça veut dire, au début, effectivement, il faut se forcer. Donc ça veut dire que c'est un gros travail. Mais je dis, quitte à passer toute la réunion à dire quelle question je vais poser, ouais. Il faut le faire, parce qu'au fur et à mesure, c'est un cercle vertueux. Mm. Ça va devenir de plus en plus évident, et après, ça pourra devenir de l'impro. Et de l'impro, c'est-à-dire j'ai une question, hop, le conférencier ou la personne du coup donne la réponse, ça appelle du coup de ma part une autre question, et c'est quelque chose qui va devenir beaucoup plus facile. Donc c'est la, le point, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Parce que forcément, prendre la parole pour donner des conférences, des choses comme ça, c'est pas le cas de tous les juristes, et c'est des situations très particulières. Déjà, je pense, de manière beaucoup plus modeste, le fait d'avoir finalement quelque chose de très décomplexé, de pouvoir avoir cet échange sans, voilà, sans stresser, sans être mal à l'aise, c'est déjà, je pense, un premier pas qui est super accessible et qui est beaucoup plus efficace dans la vie de tous les jours que le fait d'être capable de donner des conférences où c'est pas forcément le cas de tout le monde.
Et puis si on se rate, c'est pas grave, non ?
Oui, c'est parce
que. Qu'est-ce qui se passe, c'est ça ?
Enfin, rien.
Rien du tout.
Il n'y a pas d'enjeu.
Ouais. Et j'en suis la preuve sur ce podcast, le nombre de rebonds ratés, de questions, ouais. et qu'on garde d'ailleurs la plupart des fois. On va faire des petites coupes à certains moments, mais qu'on garde. Et puis, c'est pas grave, c'est ce qui fait le naturel de l'échange. Et on se sent beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus léger après, je trouve. Et je pense qu'on partage le même avis. Ok, très bien. Nathalie, c'est un secret pour personne, tu fais partie des administrateurs et du bureau de la FJE, puisque tu es vice-présidente en charge de l'université des étudiants et de la jeunesse. Un large projet avec énormément d'enjeux. Si tu faisais partie d'un gouvernement, je pense que tu aurais le titre, évidemment, de ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Qu'est-ce que ça implique d'occuper de telles fonctions ?
Alors déjà, c'est un plaisir énorme. Moi, je prends vraiment énormément de plaisir, et c'est un vrai épanouissement personnel, hein, d'être au sein de la FJE et d'être engagée, d'être bénévole. Pourquoi ? Parce que la FJE, c'est une association, hein, comme tout le monde le sait, ceux qui écoutent, j'imagine, l'Association française des juristes d'entreprise, qui œuvre énormément pour les juristes d'entreprise, qui réunit des gens qui sont des juristes passionnés, très très engagés, et donc se nourrir de toutes ces réflexions et de toutes ces actions avec ce réseau de bénévoles et l'équipe de permanents, pour moi, c'est une richesse qui est incroyable sur un plan à la fois personnel et professionnel, parce que, encore une fois, c'est un vivier d'idées, c'est un vivier d'action qui trouve aussi une caisse de résonance, hein, dans mes fonctions, et qui m'amène à me questionner et à remettre en question en permanence la manière de faire, hein, et les objectifs. Donc, à titre personnel, forcément, quelque chose d'extraordinaire. Et après, on a énormément d'enjeux et énormément de combats à mener au sein de la FJE. Alors, on a bien sûr, hein, la confidentialité des avis des juristes, qui est un élément quand même assez structurant, hein, depuis de nombreuses années, et sur lequel on doit continuer à œuvrer, en espérant un dénouement positif le plus rapidement possible.
On espère.
Et ensuite, moi, sur la partie université, école, étudiants et jeunesse, je trouve que c'est quelque chose qui est aussi le prolongement de l'action qu'on peut avoir pour les juristes d'entreprise, parce que pour les juristes d'entreprise, bien sûr, il y a la formation continue, et il y a la défense de notre métier, et le fait de toujours continuer à œuvrer pour le structurer et le faire évoluer. Par contre, les juristes de demain, ce sont les étudiants, et on doit forcément, nous, en tant que juristes d'entreprise, aussi s'impliquer dans la formation initiale de ces juristes. Pourquoi ? Pour à la fois faire connaître notre métier auprès des étudiants, ça c'est très important, pour que le fait qu'ils fassent leur choix en Master 2, ça soit un choix et pas un non-choix. Mm-hmm. Le métier de juriste d'entreprise n'est pas assez connu par les étudiants en droit, et beaucoup veulent devenir avocat, pas nécessairement par vocation, hein. Moi, je trouve ça super quand c'est une vocation, mais aussi parce qu'ils ne connaissent pas forcément le métier de juriste d'entreprise, parce que c'est plus compliqué à expliquer, hein, le métier de juriste d'entreprise. C'est moins entre guillemets
imagé.
C'est moins imagé. Les entreprises, c'est très différent. On a les PME, les ETI, les boîtes du CAC 40, du SBF 120, des boîtes internationales, pas internationales, les directions juridiques, on soit à géométrie extrêmement variable, avec un nombre de collaborateurs qui est parfois très restreint. Donc ce que fait le juriste d'entreprise, c'est pas du tout la même chose en fonction de là où il exerce son métier. Donc c'est pas nécessairement évident pour les étudiants d'appréhender ce métier-là. Donc pour nous, très important d'avoir cette pédagogie et de leur expliquer ce qu'est notre métier, et aussi le fait de pouvoir amener notre connaissance du monde de l'entreprise dans l'université pour pouvoir influer aussi sur la formation initiale, pour pouvoir avoir finalement un enseignement qui ait une dimension beaucoup plus pratique concernant le monde de l'entreprise, et avoir des étudiants qui arrivent sur le marché du travail beaucoup plus finalement plug and play, mm-hmm. avec une meilleure compréhension des enjeux des entreprises. Donc je pense que c'est une à la fois quelque chose qui est vertueux pour les entreprises, d'avoir des collaborateurs mieux formés, et pour les étudiants, de faciliter aussi leur entrée sur le marché du travail.
On a reçu quelques invités sur ce podcast, et notamment Alicia ou Asna Balouf ou encore Antoine Van Winsberg, qui nous parlaient justement des enseignements, soit qu'ils avaient reçus, soit qu'ils donnaient au sein de ces masters, et très pratico-pratique, avec justement des personnes qui sont issues de direction juridique, qui viennent donner des cours et qui viennent justement donner des cours sur des cas concrets qui arrivent en entreprise, avec des échanges très réguliers avec pas mal aussi de professionnels d'autres entreprises, toujours au sein de la direction juridique ou hors de la direction juridique. Et justement, c'est quelque chose qui les a beaucoup marqués, mais qui n'est pas très courant dans tous les autres masters, qui se disent malgré tout master professionnel et non pas master de recherche. Et c'est vrai qu'on gagnerait à avoir beaucoup plus d'interventions des juristes au sein de ces formations. On sait tous que on est sur un nouveau mandat depuis quelques semaines, il me semble, depuis avril, mai, avec donc Jean-Philippe Gilles qui a été nommé ou élu, c'est quoi le bon terme ? Nommé ?
C'est désigné par le conseil d'administration.
Désigné président de la FGE, bravo à lui. Et donc c'est un nouveau mandat, 5 ans à venir. C'est quoi vos engagements, plus précisément les tiens peut-être, ou de manière globale, c'est quoi vos engagements pour ces 5 prochaines années ? Si tu devais en retenir quelques-uns.
Si je devais en retenir quelques-uns, bah on a je le citais, hein, le sujet de la confidentialité sur lequel on va avancer, qui est un des sujets majeurs. Et puis après, je ne vais pas déflorer finalement le discours de Jean-Philippe. Et donc, je préfère du coup au moins rester sur le message important que je souhaite délivrer moi sur le portefeuille du coup qui est le mien, parce que c'est de toute façon au niveau de l'association, on reste vraiment sur l'ADN de notre engagement avec les actions qu'on mène sur la formation continue des jurys, sur lesquelles on a énormément travaillé, et on a au sein de la FGE une offre de formation continue qui est juste exceptionnelle, hein, qui est pour les juristes d'entreprise.
Et on salue, ouais, Charlotte Pinguet, il me semble.
Tout à fait, exactement, qui fait un travail formidable, et au sein du conseil d'administration, Sarah Leroy, qui effectivement s'occupe de la formation continue des juristes. On a aussi un travail extraordinaire qui a été fait avec la relance des commissions par l'équipe, et qui est piloté au sein du bureau par Tristan Carayon, donc qui fait un travail formidable. On a des commissions qui sont de plus en plus dynamiques, et donc on voit notamment, alors pour ceux qui sont sur LinkedIn, voilà, une communication qui est très présente, très enthousiasmante, et on voit tout le travail dynamique que font les commissions, et de la même manière des régions qui sont très dynamiques, donc sous la houlette de Bruno, et des délégués régionaux qui sont extrêmement investis. Et ce que je disais tout à l'heure, on voit, hein, l'engagement de cette équipe, de ces bénévoles, des membres de nos commissions, donc experts, de nos délégués régionaux. Et je pense que c'est vraiment quelque chose sur les prochaines années qu'on va s'attacher à consolider pour maximiser vraiment l'impact de la FGE et maximiser l'impact de toutes nos actions sur toutes ces thématiques.
Si on reprend le langage du monde de la télé, que tu connais bien, nous, sur Parole de Juriste, on est à 11% de part d'audience auprès des 18-23 ans. Ce matin, j'ai revérifié, on est à 10%. quel conseil donnerais-tu aux étudiants, aux jeunes étudiants en fac de droit ou curieux qui nous écoutent depuis la France, le Maroc, les États-Unis, la Belgique d'ailleurs, l'Allemagne, c'est chouette, le Sénégal, et qui se posent toutes ces questions, encore plein de questions sur la métier de juriste d'entreprise, qu'est-ce que tu leur dirais ?
Alors moi je leur dirais qu'ils ont une chance formidable
de se poser des questions.
De se poser des questions et d'avoir la capacité d'avoir les réponses.
Ah.
Parce que moi, quand j'étais étudiante, il n'y avait pas tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils ont une masse d'informations à leur disposition qui est juste incroyable. Être curieux, c'est aussi aller chercher les réponses qu'ils vont avoir. Ils vont les avoir sur LinkedIn, ils vont les avoir sur le site de l'FJE. Il y a des podcasts, il y a des vidéos, il y a des articles. On a la possibilité, nous, à partir d'un M1 en poche, d'être adhérent à la FJE pour les étudiants. On a le GEM, donc, qui est notre magazine pour les juristes d'entreprise, et donc accessible aussi donc, quand on est adhérent. Donc aujourd'hui, les informations, elles sont là. Donc il faut aller les chercher. Et ensuite, il faut aussi se poser la question d'aller sur le terrain. Il y a des after-work, il y a des conférences, il y a des événements qui sont organisés aussi dans les universités. Il faut y aller, il faut poser des questions, comme on disait tout à l'heure. Donc, oser poser des questions, oser aller voir un intervenant à la fin d'une intervention pour poser une question. C'est-à-dire, il faut aujourd'hui être vraiment proactif, pour moi, parce que tout le permet. L'information, elle n'arrivera pas prémâchée. Et donc, ça veut dire qu'il faut être curieux et se donner les moyens de sa curiosité.
Il faut travailler sa curiosité, la préparer.
Il faut travailler, exactement.
La préparer en amont et puis se préparer avant justement d'aller à la rencontre de ces personnes. On est d'accord qu'on peut dire à ces étudiants éventuellement qui nous écoutent que tu ne mords pas. C'est-à-dire qu'on peut venir te parler à la fin d'une conférence éventuellement.
Carrément.
Très bien.
Mais tous les intervenants qui viennent dans ce genre d'événement, ils sont là justement pour partager. Pour partager leur expérience, pour donner de leur temps. Donc, ils sont là. Enfin, à partir du moment où on fait cette démarche, c'est qu'on est dans ce mindset-là. Donc, ça veut dire que oui, bien sûr, qu'il faut faire aussi un pas parce que on n'a pas une boule de cristal, on ne peut pas deviner que quelqu'un a une question, que quelqu'un voudrait. Et donc, il faut vraiment prendre son courage à deux mains et y aller.
Très bien, c'est un super conseil. On a reçu sur ce podcast Louise Durand, qui a été... génial. Moi, j'étais bluffée par cette jeune juriste, hyper dynamique, qui a l'air passionnée. C'était vraiment un chouette épisode. Et puis, moi, ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est que j'ai eu quand même pas mal de retours de juristes seniors avec qui j'ai échangé. Et à chaque fois que je leur demandais, pour certains, mais quel est votre épisode préféré, certains me disaient l'épisode de Louise Durand. Et moi, je m'attendais à un autre épisode d'une personne, justement, avec beaucoup plus d'expérience. Et ils me répondaient Louise Durand. Et j'ai adoré ça. Je trouve ça génial. Et donc, Louise a remporté le prix Maurice Ben Sadoun, l'année dernière. Pourquoi des prix comme le prix Maurice Ben Sadoun sont aussi importants pour toi, pour la FJE et pour tout ce que tu fais ?
Pour la FJE, on est toujours dans cette démarche justement d'aller vers les étudiants et de les aider, d'aider à les révéler, de faire parler du métier de juriste d'entreprise. Et pour les personnes qui participent au prix, on est toujours un peu ce que je disais aussi dans tout le bénéfice qu'on a à être dans cet engagement associatif. C'est extrêmement enrichissant d'être au contact des étudiants. Moi, je trouve que c'est vraiment une dynamique qui apporte aussi dans notre pratique parce que finalement, avoir de l'expérience, c'est bien, mais quand on a de l'expérience, on a aussi engrangé forcément des précédents. Et des précédents peuvent aussi donner des biais et une certaine manière de voir finalement le droit qu'on utilise. Les étudiants, ils ont une autre approche. C'est autre temps, autre mœurs, une autre culture. Et c'est aussi assez rafraîchissant parce qu'ils vont avoir d'autres points de vue. Donc moi, je trouve ça très intéressant parce que ça force aussi à regarder un sujet ou un thème juridique avec une autre approche. Donc je trouve que ça fait partie aussi par rapport à ce qu'on disait plus tôt, de cette nécessité finalement d'ouvrir un peu les chakras et de pas s'enfermer dans une pensée avec des certitudes. Donc très important aussi de donner cette parole aux étudiants pour finalement avoir cette fraîcheur et cette vision probablement beaucoup moins travaillée que celle qu'on peut avoir quand on a une certaine expérience. pour les étudiants, encore une fois, sortir de sa zone de confort.
Oui.
Sortir de sa zone de confort parce que ça veut dire que c'est se mettre aussi en lumière, c'est une expérience et toutes les expériences doivent être saisies par les étudiants parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait à la fac. Donc n'importe quel prix, ça veut dire travailler un pitch, ça veut dire être face à un jury, ça veut dire avoir souvent un échange de questions-réponses. Donc ça permet aussi de désacraliser finalement cet exercice-là. Et je trouve que c'est essentiel, au même titre que tout ce qui permet de sortir de sa zone de confort, c'est une expérience, et c'est une expérience qui est forcément enrichissante.
Et qu'on soit gagnant, gagnante ou pas d'ailleurs.
Exactement, parce que au final, ce qui compte, c'est l'expérience. Et l'expérience, tous les participants vont avoir la même. Et la personne qui gagne le prix va le gagner sur la base de certains critères, mais ça ne retire pas pour autant la valeur des autres participants. Oui. Sur le prix Maurice Bensadoun, j'ai recruté
c'est vrai
une des participantes qui n'est pas la gagnante.
Génial.
Voilà.
Qu'on peut citer.
Périne.
Périne.
Et donc, ce qui veut dire que c'est pas toutes les choses ne sont pas égales par ailleurs, parce que ça veut dire que il y a des qualités qui étaient attendues pour le prix, mais c'est pas quelque chose qui veut dire que les qualités sont pas là chez les autres. Elles sont différentes. Mm-hmm. C'était pas forcément celles qui ont été retenues pour le prix.
Donc la leçon, c'est si on veut être recruté au sein de la direction juridique de Fnac Darty avec Nathalie Dubois, il faut perdre le prix Maurice Bensadoun, c'est ça?
Non. Déjà, ça, en fait, ce que je dis, c'est que ça donne aussi aux étudiants de la visibilité. Ça leur permet de commencer aussi à travailler un réseau. Mm-hmm. C'est très important. Souvent, en fait, les jurys sont moins bons en réseau que les écoles de commerce. Hein. Mm-hmm. Et le réseau, c'est super important. Donc, se donner de la visibilité. Et puis aussi, ce que je disais tout à l'heure, désacraliser finalement les fonctions et avoir une capacité à avoir des échanges avec n'importe quel type de personnes ou d'interlocuteurs. Je pense que des prix comme ça, ça permet aussi de prendre un peu la lumière.
Et il aura lieu cette année encore ?
Tout à fait.
Quelle date ?
On a une Alors, date ? Il a déjà lieu.
Il a déjà eu. Ok, d'accord, très bien. Eh bien, écoute, dans tous les cas, je pense que ça aura lieu forcément chaque année, c'est ça ?
Tout à fait.
Génial, ok. Eh bien, écoute, très bien. Pourquoi tu cours, Nathalie ?
Je pense qu'on l'a compris. Hein. Moi, je cours pour le mouvement.
Oui.
Alors, je cours tous les dimanches.
Oui, d'accord.
Pour regarder la forme. Exactement. Et donc, moi, je cours pour le mouvement. Je suis quelqu'un de curieux et donc, moi, j'ai besoin d'être en mouvement. J'ai besoin d'être en mouvement, c'est mon moteur, la passion, le fait d'avoir 150 choses que j'aimerais faire. Et je trouve qu'on vit, pour les juristes, une époque formidable. Mmh. De toute façon, moi, on a un métier qui est extraordinaire, parce que ce mouvement, en fait, il est inhérent à notre fonction. Et c'est pour ça que moi, je suis très alignée avec ce métier de juriste d'entreprise qui est tout le temps en mouvement.
Et c'est hyper agréable d'échanger avec quelqu'un d'aussi passionné en mouvement et dynamique. Donc, je passe un super bon moment. J'ai encore deux questions. La question bateau de ce podcast. J'aime bien cette question quand même. Si tu devais citer une personnalité qui t'inspire à donner le meilleur de toi-même en tant que personne ou en tant que juriste, ce serait qui ? Vivante ou pas, ou réelle ou...
Alors, j'ai pas une réponse unique, parce que je pense que ça dépend des moments et ça dépend du... Quand on dit c'est quoi l'humeur du jour, je pense que c'est quelque chose qui est fluctuant. En ce moment, vu tous les débats qu'il y a, je dirais Simone Veil. Parce que c'est quelque chose qui forcément est très présent dans nos esprits à l'heure actuelle avec ce qui se passe aux États-Unis sur le droit à l'avortement. Donc je dirais que aujourd'hui une femme qui a eu le courage de se battre pour nous toutes m'inspire énormément, et je pense que ça fait partie des personnalités qui sont inspirantes et qui est très à mon esprit à l'heure actuelle.
Et c'est une très bonne chose que de faire passer ce message sur cette question. Et j'apprécie, je te remercie. Simone Veil, Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir.
Des femmes extraordinaires.
Des femmes extraordinaires qu'il faut lire. Je sais que on est en juin, juillet. Moi, j'ai passé mon été à à lire Annie Ernaux, typiquement, que je n'ai jamais lu et qu'on m'a fait découvrir et que j'ai vu à l'occasion d'une émission. Et donc, j'ai hâte de lire ça. Quels sont les challenges, sans transition, et les objectifs que tu voudrais réaliser pour la suite de ta carrière ?
Et ben moi, ce que je veux, c'est être surprise.
Ouais.
J'ai pas de, comme on disait tout à l'heure, pas de plan prédéterminé. Mm-hmm. Alors, dans les livres, alors bon, c'est, j'ai peut-être déformé le message au fur et à mesure des années. Un livre que j'avais adoré à l'époque que j'ai lu quand j'étais jeune, c'est L'alchimiste de Paulo Coelho.
D'accord.
Voilà. Et de se dire que de suivre les signes. Donc les challenges, ils se présentent, en fait, on n'a pas vraiment besoin de les penser, ils se présentent naturellement. Ils se présentent aussi, ces challenges, quand on sait écouter, donc il faut être à l'écoute des bruits. Ce que je dis toujours, en fait, les bruits, il y en a beaucoup. Mmh. Il y a les bruits internes à l'entreprise, il y a les bruits externes. Mmh. C'est pour ça que rencontrer des gens, échanger, s'ouvrir, écouter, c'est ça qui crée les challenges. Parce que finalement, les challenges, on ne peut pas savoir soi-même quels vont être les bons challenges. Non. Et donc, être à l'écoute des bruits, et quand on entend les bruits, les challenges, en fait, ils viennent tout seuls. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y en a tout le temps.
Génial, et bah écoute, on sera tous à l'écoute des bruits à la suite de cet épisode. Grand merci pour ce temps déjà que tu nous as accordé. C'est vraiment un plaisir d'avoir aussi pris le temps d'échanger de manière beaucoup plus informelle et puis pour tous ces conseils. Je vais en faire deux épisodes. Je vais vraiment en faire deux épisodes parce que je pense qu'il faut prendre le temps de bien les écouter. Et puis je suis sûre que tu auras plein de retours à la suite de ce podcast. Et t'en as déjà et t'en as pas besoin, mais moi j'ai beaucoup appris. En tout cas, et je suis sûre que ton parcours fera écho à certaines personnes et que d'autres personnes en apprendront aussi beaucoup. Donc merci, et puis je pense qu'on est quand même amené à se revoir très bientôt, donc merci pour cette rencontre.
Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi et puis de partager modestement
un samedi matin. J'espère que mon café est bon.
Je vais voir ça tout de suite.
Très bien. Merci. Merci Nathalie.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur séraphin.légal, section Demandez une démo. Merci encore et à très vite.